Roubaix, mai 2024.
Bonjour à vous, bienvenue. Merci de vous être levé un samedi matin pour être présent malgré la pluie. Donc les gens qui viennent pour la première fois ici, vous êtes, voilà. Donc on est dans une galerie, enfin un salon d'art, ça il y a 10 ans. On expose des artistes de la région, de France et d'étrangers. L'idée c'était de les exposer au cœur d'un espace de vie pour le donner à voir différemment dans une galerie. On donne des conférences, la preuve Gérard Belot ce matin. Et les concerts, si vous voulez avoir des informations, vous laisserez votre adresse mail et on vous enverra les informations. Je connais Gérard depuis quelques décennies, on va dire ça comme ça. Voilà, on a collaboré ensemble, on s'est rencontrés parce que nous collaborions ensemble à des stages de développement personnel. On a collaboré ensemble à enseigner le développement de l'intuition, technique de développement personnel de Rebirth. Et puis, moi, j'ai arrêté cette activité pour devenir galériste. Et Gérard a poursuivi. Et on faisait le constat ensemble tous les deux qu'ayant été thérapeute, ayant accompagné différents publics, même si l'aspect historique de l'investigation autour des parents, des grands-parents était possible, il y avait tout un champ où on n'avait pas accès à l'information, qui est l'aspect transgénérationnel. Donc c'est de ça dont Gérard va vous parler. C'est comment. Voilà. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Gérard.
Merci. Alors, je suis Gérard Belon. J'ai pratiqué la psychothérapie depuis un peu plus de 30 ans, avec différentes approches. Également le développement de l'intuition que j'ai enseigné. J'ai aussi créé une approche pour allier le côté psychologique et le côté énergétique qui s'appelait l'écoute psycho-énergétique. Et puis depuis quelques années, je développe une approche quantique avec un appareil dont je parlerai en fin de parcours qui permet de toucher les différents champs de conscience. Cette conférence est aussi dans le cadre d'une association, Annabelle Marche, qui a pour but d'aider, de soutenir certaines personnes qui ont un handicap. Et là, notre projet, c'est d'emmener notre fille aînée qui a un handicap, de l'emmener en Pologne, on espère bien dans cette année, au début de l'autre. Avant, nous allions en Ukraine, mais hélas, pour les raisons que vous connaissez, cela n'est plus possible. Voilà une introduction globale. Et pour commencer, ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est de fermer les yeux quelques instants. Juste pour prendre une grande inspiration. Soufflez. Une grande inspiration et soufflez. Pensez à comment vous êtes dans votre corps. Quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos joies, quels sont vos doutes. Et tout cela, si vous pouviez, ne serait-ce qu'un instant, mettre sur pause, de telle sorte que la partie de vous consciente, mais également d'autres parties qui composent votre être, soient disponibles pour percevoir au-delà des mots ce qui est de la conscience. Et ce faisant, laissez-vous recevoir cette forme d'énergie particulière dans cette pièce, spécialement pour nous en ce moment. Respirez grandement. Voilà, vous pouvez savourer en gardant les yeux encore fermés quelques instants ou bien les ouvrir. Donc, le thème pour aujourd'hui, c'est l'aspect transgénérationnel et karmique. Dieu, qu'est-ce que c'est que ces grands mots? Si on part de quelque chose de tout simple, sûrement ça vous est déjà arrivé de dire, mais c'est encore la même chose. Et ce côté répétitif dans la vie, et ça vient d'où? Certaines personnes vont dire, oh toi, tu ressembles à ton oncle Jacques. Ah bon? Je ne vais pas broder comme ça sur des choses assez larges. Je vais parler de mon héroïne qui s'appelle Duduline. Elle m'accompagne depuis 30 ou 40 ans. Duduline, pour aujourd'hui, va être une femme d'une trentaine d'années, célibataire, ayant envie d'être en couple, mais ne trouvant pas la possibilité d'être en couple. Elle dit que ses hanches sont ceci, que sa poitrine est cela. Mais surtout, à chaque relation, elle n'a pas très confiance en elle. Et il semble bien qu'elle ait l'art consommé de trouver des partenaires de vie épisodiques où ça ne la renforce pas du tout dans l'image qu'elle a d'elle-même. Duduline, la trentaine, elle aimerait bien une vie de couple. Mais déjà, quand on lui demande comment est sa mère, elle a eu un enfant avant le mariage, et puis elle-même est arrivée très peu de temps après. Et sa mère n'est pas très enchantée de la relation avec son mari. Et au fond, avoir cet enfant si jeune pour sa mère, eh bien, cette femme garde du ressentiment. Et du coup, c'est sûrement en lien avec le manque de confiance pour Duduline. C'est quoi la relation avec les hommes? Parce qu'évidemment, le père de Duduline est parti quand elle était jeune. Permettez-moi, c'est très caricatural, mon histoire. Hein? Mais dans la vraie vie, c'est pire que ça encore. Je pourrais vous donner des exemples. Ou des fois, c'est mon auditoire qui me donne des exemples. Je fais un petit aparté. Une fois, j'expliquais la situation d'une femme qui était vraiment très compliquée. Et il y a une sage-femme qui m'a dit, mais moi, je connais quelqu'un, une femme, qui a été malmenée étant enfant, qui a été abandonnée assez jeune, et elle s'appelait Dolorès. Dolorès, ça veut dire douleur. Oui, c'est un démarrage de vie, pas mal. Et donc, bah. Donc, je reviens à ma Duduline. Donc, on a sa mère, enceinte un peu tôt, qui, bof, avec les hommes, c'est pas terrible, elle s'est sentie abandonnée, flouée. Tiens, si on s'intéresse à la mère de la mère, donc à la grand-mère de Duduline. À chaque fois, je reviens à Duduline pour ne pas perdre le fil. Donc, la grand-mère de Duduline, elle est la fille d'une maman qui a eu 7, 8, 9 enfants. Un objet parmi tant d'autres. Et donc, la grand-mère de Duduline, bon, elle est dans cette idée où, bon, c'est bien qu'elle soit vivante, mais ça aurait été pas si mal si elle n'avait pas été là. Parce qu'aux yeux de sa propre mère, c'était un fardeau en plus. Ah, donc on va s'intéresser à la mère de la mère de Duduline. Donc là, on est au niveau de la grand-mère. La grand-mère, donc, elle a 8 enfants. C'est plutôt la galère. On ne va pas spécialement parler de son mari qui allait plutôt voir ailleurs. Mais par contre, la grand-mère, elle a une sœur. Elle a une sœur qui, elle, vit seule. Elle n'a pas d'enfant. Bon, et si on s'intéresse à la mère de la grand-mère et de l'arrière-tante, eh bien, cette femme-là a été violée. Et elle a gardé une haine vis-à-vis des hommes. Donc, une de ses filles, eh bien, elle est célibataire et elle ne veut pas avoir d'hommes. Les hommes sont des ceci, sont des cela. Donc, elle reste dans cette hargne et elle reste célibataire en disant « Mais je fais un bon choix en étant célibataire » et elle peut argumenter encore alors que c'est juste réactionnel par rapport au vécu de sa propre mère. L'arrière-grand-mère de Dudley, donc la fille de cette femme dont on parle, qui, elle, a été violée, elle a eu des enfants, et en fait, ben, la sexualité, bon, c'est comme ça, avoir des enfants. Mais si on garde cet arbre généalogique, on pourrait ajouter d'autres éléments encore. Je reste uniquement dans la lignée des femmes. Je pourrais donner des exemples avec un homme. Je reste avec la lignée des femmes. Elle n'arrive pas, Dudeline, à avoir de relations avec un homme. Mais toute cette colère de génération en génération, hein, autant l'arrière-arrière-grand-mère qui a été violée, que la fille de cette femme qui a 8 enfants, mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette vie? C'était comme ça, certes. Mais, vous voyez, l'homme dans ce qu'il peut représenter, la sexualité dans ce qu'elle peut représenter, et du coup, pour notre Dudeline, ben, elle pourra avoir la haine des hommes. Non, elle a envie d'avoir une relation avec un homme. Mais du coup, cette colère contre les hommes, elle l'a retournée contre elle-même. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'elle, en faisant une démarche de thérapie, elle va être dans cette colère contre elle, mais pas contre les hommes. Et c'est assez complexe en thérapie de remonter à l'arrière génération où cette femme a été violée. Pourtant, il y a cette empreinte qui est transmise, donc ça va donner pour Dudeline une dévalorisation face aux hommes. Pour quelqu'un d'autre dans la famille, ça pourrait donner, comme l'arrière-grande-tante, la haine des hommes. Ça pourrait donner une femme battue. Vous voyez, c'est une généralisation qui peut être caricaturale, mais une femme battue, elle a une colère contre les hommes. Mais en même temps, il y a des femmes, si un homme lève une fois la main dessus, elles sont parties avant que la gifle arrive. Et le drame pour les femmes battues, c'est de dire par exemple, mais si tu me tapes encore une fois, la fois prochaine, je m'en vais. C'est donc déjà concevoir qu'il va y avoir une fois prochaine. Et c'est vraiment très complexe pour une femme battue de quitter cette relation pathologique. Parce que c'est un lien étroit avec son bourreau, tout en attisant inconsciemment le bourreau. Mais tout ça, on le remonte avec l'arrière-arrière-grand-mère qui a été violée, qui a la haine des hommes. Comment est-ce que cette femme fait aujourd'hui pour maintenir ce lien avec son aïeul? Ben, c'est en restant dans la colère contre les hommes, en étant battue, ou alors en ne trouvant pas d'homme, ou alors en ayant des expériences de vie où à chaque fois elle est trompée, ou bien à chaque fois elle se sent rejetée. Mince. Et si cela venait en grande partie de la colère non élaborée de l'arrière-arrière-grand-mère? Voyez, pour nous, dans notre conscience, il y a une partie de nous, on a l'impression de tout vouloir contrôler, maîtriser. Rappelez-vous ce film qui allait droit vers un iceberg, « Je suis le maître du monde ». Donc il y a une partie de nous qui vit dans cette dynamique-là. C'est 5% de qui nous sommes. Vous voyez, c'est un champ de conscience réduit qu'on peut appeler le corps mental, qu'on peut appeler l'ego. Et dans cette vision-là, tout est un peu étroit. Mais dans notre conscience, personnellement, je suis persuadé que chaque enfant de cette lignée a amené à l'intérieur de lui la volonté de guérir ses parents. Et je suis vraiment profondément convaincu que nous faisons tout cela dans notre conscience. Or, la façon dont nous nous y prenons, dont l'enfant s'y prend, c'est de prendre la dépression de maman. Et alors, je deviens porteur de la dépression de maman. Mais le bug, c'est que ça ne guérit pas maman. Mais par contre, on devient porteur d'une pathologie qui n'est pas à soi. Or, on ne peut pas guérir d'une pathologie qui n'est pas à soi. Ou en tout cas, moi, je ne sais pas faire. Mais ce qui m'a semblé au fil du temps accessible, c'est de redonner à César ce qui appartient à César. Ce qui va demander, psychiquement, de se distancier de maman, maman comme étant un symbole. Parce que quand on parle de maman, on parle de maman, mais on parle de la maman de la maman, de la maman de la maman, de la maman de la maman. J'habite près d'une école primaire. À chaque fois, je parle de cette situation parce que je la trouve magnifique. Ces dames sont en train de parler entre elles, et d'un coup, il y a le premier enfant qui sort, qui crie « Maman !» Et il y a toutes les mères qui se retournent. Ah. Donc l'idée que je me fais de maman, c'est une image introjectée. Ça veut dire que lorsqu'on avait autour de 3 ans, on a absorbé l'image de ce que représentait notre mère. L'image de ce que représentait notre mère. Et on a construit cela comme étant maman. Donc maman est une image figée qui correspond à notre vécu avec cette personne lorsque nous avions 3 ans. Identique pour papa. Papa est une image que nous avons fixée à l'âge de 3 ans. Et donc, quand aujourd'hui, quel que soit notre âge, nous parlons de notre maman ou de notre papa, c'est plutôt un aspect archaïque à l'intérieur de nous qui est aux commandes. C'est le petit garçon ou la petite fille qui est à la recherche de maman. Je reste un petit peu à découper sur maman et papa. Si je reviens à Duduline, on va parler de sexualité. On va faire simple, si vous me permettez, sexualité dans un lit. Donc, il y a Duduline et il y a son partenaire. Mais Duduline, elle a tellement peu confiance en elle qu'elle attend qu'une chose, c'est d'être câlinée par une bonne maman pour la rassurer. Et ce qu'elle aimerait par-dessus tout, et ce qui est naturel, c'est d'être regardée par un papa comme étant une princesse. Donc déjà dans le lit, il y a Duduline, il y a son papa, il y a sa maman. Monsieur, de son côté, ah ben monsieur, j'insiste, c'est caricatural, mais ça fonctionne bien quand même. Monsieur, par rapport à son père, il a besoin quand même de montrer qu'il sait faire. Et c'est l'action. Donc, grandi petit, on y va. Mais il a aussi besoin d'être câliné par sa maman. Donc, dans le lit, il y a madame, il y a monsieur. Il y a la mère et le père de madame. Il y a la maman et le papa de monsieur. Donc, oui, il faut quand même un grand lit dans ces cas-là. Et la grande difficulté, c'est que, comme à cet endroit-là, c'est une petite fille qui est dans la sexualité, pour elle, ça n'a pas de sens. Donc c'est une femme qui est prête à payer le prix de la sexualité pour avoir enfin de la tendresse. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai entendu il y a quelques années une émission où les gens parlaient, et il y a une femme qui disait, moi ce que j'attends, c'est après la sexualité, bon, il se passe ce qui se passe, mais après qu'il puisse me câliner, me caresser. Oui, c'est vraiment l'attente d'une petite fille. Et du coup, la femme, elle n'est pas aux commandes. Et on est bien en lien avec ce qui se passe de génération en génération, d'un manque affectif. Et l'image d'Épinal, je trouve, c'est de chercher sa moitié. Dieu, chercher sa moitié. Ça sous-entend quoi, chercher sa moitié? Ben, qu'on n'est qu'une moitié. Et tant qu'on n'est qu'une moitié, ben, on ne peut pas vivre pleinement, on ne peut vivre qu'à moitié. Donc, je développe l'idée de... Et si on devenait un gâteau? Vous voyez, un gâteau entier. Le gâteau que vous souhaitez être, c'est une métaphore très personnelle. Mais par contre, imaginez que la relation à l'autre soit la cerise sur le gâteau. On peut être d'accord, si vous voulez, que un gâteau, c'est toujours mieux avec une cerise. Mais de fait, quand on rencontre en tant qu'être entier, on va plutôt être à la quête inconsciente de chercher quelqu'un d'entier. Et quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de puissant. Donc, sur son chemin personnel, de devenir un être puissant. Parce que dans le fond, en tout cas, dans ma façon de guider, c'est toute cette colère transgénérationnelle. Il faut bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. Ou pas. Ouais, j'aime bien parler des Corses. La vendetta des Corses. Ils s'entretuent au jour d'aujourd'hui. Je dis ça, c'est une caricature aussi que les Corses me pardonnent. Mais si on remonte à 2, 3, 4 générations, au fond, c'est l'âne de l'arrière-grand-père qui avait brouté dans le champ du voisin, et ils se sont fâchés. C'est tout. Mais aujourd'hui, on a perdu l'information. Et ils s'entretuent. Est-ce que vous percevez toute cette chaîne où on perd l'information de base et ça se transforme en violence? Je fais encore un petit aparté à propos de la violence. Quand on est petit, c'est naturel de dire non. Et c'est naturel de dire à ses parents, là encore, je vais prendre soin des mamans, c'est naturel que le petit enfant dise à sa maman, mais t'es pas ma maman, mais je t'aime pas. C'est pas facile à vivre. Notre cadette a dit quelque chose comme ça à mon épouse, en disant, non. Bon, donc on a mis ça en mots, et pour prendre soin de mon épouse, et pour dire à ma cadette que c'était une bonne idée qu'elle dise ce genre de choses. Et elle a élaboré, et le lendemain, elle a dit à sa maman, je voudrais regarder un dessin animé. Oui. Lequel? Bambi. Ouais. La scène où le chasseur tue la biche. Oui, c'est magnifique. C'est vraiment un acte symbolique. C'est une façon d'exprimer notre colère saine. C'est « je suis différent ». De toi. Je le dis d'une autre façon encore. Ça, vous pouvez vous amuser à faire ça. Alors, ça, c'est la fusion. Là, vous faites comme ça, c'est deux personnes. Vous faites comme ceci. Si vos articulations le permettent, vous faites comme cela. Et on revient comme ceci. C'est un jeu d'enfant. Voilà, vous allez voir, c'est très fun. Il faut que je fasse à quelqu'un qui est... Bougez donc ce doigt. Oui, c'est un autre doigt qui bouge. Bougez donc ce doigt-ci. Et voilà, et c'est l'autre doigt qui bouge. Vous voyez, c'est d'autres doigts, mais rarement le bon. Celui-ci, voilà, c'est les autres doigts qui bougent. Ça, c'est comment nos deux hémisphères fonctionnent. Mais c'est surtout... la représentation que nous avons de l'amour. Un état fusionnel. Là, d'ici, c'est un tas de doigts. En fait, c'est un état naturel de la naissance jusqu'à 6-8 mois. La plupart des mamans, quand bébé pleure, sait si bébé a besoin que sa couche soit changée, s'il a besoin de manger, s'il y a eu un cauchemar. Donc c'est précieux, cet état fusionnel. Mais vers 8 mois, théoriquement, ça doit s'estomper. Ça doit s'estomper, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est la séparation. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la séparation, quand on est séparé, on peut être relié. Et donc, quand on est relié, ben, ce lien s'appelle l'amour. Alors que là, dans ce tas de doigts, il n'y a pas d'amour. Il y a ce qui ressemble à l'amour, ou l'amour primordial, qui est l'état de fusion. C'est génial, hein, l'état de fusion. C'est ce que l'on retrouve dans la relation amoureuse les 6 premiers mois. On pense à la même chose au même moment. C'est cool. On a envie des mêmes choses au même moment. Ah. Et puis, autour de 6-8 mois, ah, on commence à voir l'autre tel qu'il est. Parce que dans la fusion, on ne s'y trompe pas. C'est on voit l'autre tel qu'on a envie de le voir. Pas comme il est. C'est pour ça que les 6 premiers mois sont enchanteresse, enchanteur. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, dans cet état de fusion, si je n'en suis pas sorti, je vais tenter de le reproduire, et c'est ce que je vais demander à ma moitié. Parce que dans l'état de fusion, je ne suis qu'une moitié, et je vais chercher ma moitié. Donc j'insiste, les 6 premiers mois, c'est merveilleux, et puis après, mince, la moitié semble être différente. Je fais quoi avec cette recherche de moitié? Soit je continue d'attendre chez l'autre, que l'autre nourrisse mes besoins d'enfant. Hein, rappelez-vous, Duduline, dans le lit qui attend d'être câliné comme sa maman, aurait pu la câliner. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations-là? Est-ce que je continue d'attendre de l'autre en étant déçu? Ou est-ce que cet enfant que j'étais autrefois, quelqu'un va enfin en prendre soin? Et la question de fond, c'est qui va pouvoir prendre cet enfant? Qui va pouvoir prendre soin de cet enfant que j'étais autrefois? Donc la plupart, on va dire, oui, mon partenaire de vie. Que nenni, parce que le partenaire de vie, il doit prendre soin de l'adulte que je suis. Il doit prendre soin, en l'occurrence, de Duduline, mais pas de la petite fille qu'elle était. Donc la réponse que j'ai trouvée dans le sens où je vais, c'est pour Duduline, lui enseigner comment faire pour devenir une bonne mère intérieure et un bon père intérieur pour s'occuper de la petite fille qu'elle était autrefois. Camille, qui est un psychanalyste, me dit avec plus de subtilité, c'est devenir une suffisamment bonne mère et un suffisamment bon père. Et du coup, c'est apprendre à prendre soin de soi pour se protéger, pour grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que psychiquement, on grandit plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des parts de nous qui peuvent être restées dans l'enfance ou la petite enfance, et elles vont grandir plus vite dès qu'on prend soin d'elles, plus vite que notre croissance d'adulte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il en reste des traces. Les traces les plus simples, vous invitez quelqu'un chez vous, la soirée se passe bien et la personne vous dit « j'ai chaud ». Ben, beaucoup de gens répondent à cette question « j'ai ouvert la fenêtre » ou « tu veux un verre d'eau ». Oui, c'est encore une tentation de prendre soin de l'autre comme si je savais pour l'autre. Le plus simple, c'est « ah, t'es chaud, mais tu voudrais quoi ?» C'était peut-être juste une information à dire comme ça, ou juste attendre une permission de retirer son pull. On n'en sait rien. Vous voyez comme ces restes-là impriment notre vie. Donc ça imprime beaucoup la relation de couple, puisqu'on attend d'être pris en charge par l'autre, comme si l'autre pouvait nous prendre en charge comme enfant. Mais on n'est plus un enfant. Voilà, ça c'est un détour. Je reviens à Duduline et à son aïeul qui a été violé, qui a la haine des hommes. Comment est-ce qu'on va pouvoir soigner cet aspect transgénérationnel qui est transmis de génération en génération, et chaque femme et chaque homme va réagir de façon différente. Il y a des hommes qui peuvent devenir dans cette situation-là, des hommes dans l'arbre généalogique, il y en a qui peuvent devenir prêtres. Pas de sexualité. Une sexualité, enfin un homme sans sexualité. Il y en a un autre qui peut devenir violeur pour entretenir cette colère familiale. et aussi dans la relation de couple, des femmes qui vont dévaloriser les compétences sexuelles de monsieur. Oui, c'est toujours en lien avec la grand-mère. Comment est-ce que je vais faire payer cela? Et on pourrait donner encore des exemples sur un phénomène dont on a perdu l'information, consciemment. Mais l'information, elle vibre dans notre corps encore et encore. Et Duduline, si elle a décidé, ah ouais, c'est contrairement à une chanson, je suis dans un mouvement de pensée où nous pensons que nous choisissons nos parents. Et en choisissant nos parents, ça veut dire 6 mois avant la conception, nos âmes ont négocié. Et donc nous avons choisi nos parents pour vivre ce que nous avions à vivre sur Terre en tant qu'âme. Donc vous pouvez le prendre comme une métaphore. Mais si on regarde le chemin de l'âme, si l'âme s'incarne à plusieurs reprises, ça c'est le fondement même du bouddhisme, il y a la vie d'aujourd'hui, il y a la vie d'avant, et les vies d'avant, on les appelle les vies antérieures. Et je serais tenté de croire que dans d'autres vies, mon âme a vécu dans un corps d'homme, dans un corps de femme, est mort d'une façon comme ceci, d'une façon comme cela. Bref, pour expérimenter la panoplie de ce que nous pouvons expérimenter sur Terre. Mais si on regarde Duduline, son âme dans une autre vie, qu'est-ce qu'elle a bien pu expérimenter pour choisir dans cette vie-là de porter l'empreinte de l'arrière-arrière-grand-mère et de son viol et de la violence qu'elle a vécue? C'est pas par hasard, comme nous parlons tout à l'heure. Le hasard, ça a un sens à cet endroit-là. Si on regarde de façon plus large dans une mécanique, d'une intelligence, dont je parlerai dans quelques instants. Donc, Duduline, peut-être elle vient pour nettoyer son propre karma en guérissant dans cette expérience de vie l'arrière-arrière-grand-mère. Soit elle va vivre cette violence, cette colère, et elle n'en guérira pas, donc elle ne guérira pas la voie transgénérationnelle, soit elle peut la guérir. Et ce faisant, elle guérit la lignée familiale. Et donc, là, je fais un geste comme ça, mais la lignée familiale, je vous laisse compter l'arrière-arrière-grand-mère, ça fait combien d'hommes et de femmes Et donc, c'est amener, insuffler la guérison pour tous ceux qui seront prêts à vivre cette guérison en tant qu'aïeux, mais aussi en tant que descendants. Donc, ça permet d'alléger ce que les enfants vont avoir à vivre. C'est un flux. Et si on regarde ce flux et qu'on met avec les vies antérieures, c'est un flux qui fait comme ça. Donc, ma Duduline, adorée. Dans une autre vie, on peut imaginer qu'elle-même, son âme habitait un corps de femme qui a été violée. Mais on peut aussi admettre, dans cette hypothèse, que dans une autre vie, elle habitait le corps d'un homme qui était violeur. Donc, arriver à cet endroit-là de son incarnation, ça a le sens pour elle de porter la violence de son arrière-arrière-grand-mère. Ça a du sens à la fois pour guérir l'aspect transgénérationnel, mais aussi alléger son karma. Et de mon idée, il faut qu'il y ait la rencontre de ces deux aspects. Ça va, vous me suivez? Bon. C'est-à-dire que c'est à la fois individuel dans notre chemin de vie, en tant qu'âme, de vie en vie, de rééquilibrer, et en même temps d'amener cette guérison transgénérationnelle, en sachant qu'il y a bien des gens qui revivent de génération en génération la même chose, et ça n'en finit pas. Mais si on prend du recul, imaginez, en tant qu'âme, Il faut trouver la bonne famille où il y a eu la violence que nous, en tant qu'âme, on a besoin de soigner. C'est pour ça qu'on choisit tel ou tel parent et pas d'autres. Mais ça correspond aussi aux besoins des parents. Il faut quand même une sacrée intelligence qui dépasse complètement les 5% de notre compréhension du monde. Je trouve ça magnifique. Si vous allez sur Internet et vous regardez le spectre vibratoire, vous verrez, on va donner une échelle, c'est grand comme ça, entre les infrarouges et les ultraviolets. C'est grand comme ça. Ce que nous percevons consciemment, il y a des animaux qui voient un petit peu plus. Mais c'est peanut. C'est-à-dire qu'on ne voit vraiment pas grand-chose. Notre mental fait que nous ne voyons pas grand-chose. Par contre, lorsque nous sommes en lien avec ce qui nous constitue, nous percevons une vision plus large. Alors, ce qui nous constitue. Assez souvent, on peut imaginer qu'on a un corps et tout autour des enveloppes énergétiques. Cool. Ça, c'est une vision qui nous vient de l'Inde. Et si on regarde, est-ce que c'est notre corps qui émane des enveloppes énergétiques ou est-ce que ce sont des enveloppes énergétiques comme des champs de conscience qui viennent et venant sur Terre, eh bien c'est un champ de conscience qui va baisser sa fréquence pour créer un autre champ vibratoire, puis qui va baisser sa fréquence pour créer encore un champ vibratoire, le corps émotionnel, pour baisser encore sa fréquence pour créer le corps physique. Dans cette vision, le corps physique n'est que la partie incarnée d'un champ de conscience beaucoup plus large. Et ça, c'est fun. Nos organes ont un sens symbolique et nous avons besoin de guérir à la fois de ce qui est de notre corps, mais aussi de nos différentes enveloppes énergétiques. Enveloppe énergétique ou champ de conscience. Et en fait, c'est ce que nous portons. Notre champ de conscience, ça va bien plus loin. Bon, c'est simple, hein, quand on dit, on rencontre quelqu'un, il y a des atomes crochus. Ben, les atomes crochus, c'est d'un point de vue énergétique, ça accroche. Puis il y a des gens, on le voit, c'est la guerre instantanément. C'est les atomes crochus, mais crochus dans l'autre sens. Comment ça se fait? Ben, probable. Que ce n'est pas la première fois qu'on les rencontre. Ce n'est pas la première vie où on les rencontre. Et il y a des gens, on les voit, on les connaît tout de suite, depuis toujours. Donc on a déjà vécu quelques vies ensemble. Et il y a des gens, on les voit. Ça veut dire qu'on a aussi vécu au moins une vie avec eux et que ça ne s'est pas bien terminé et qu'on a la possibilité de remettre de l'ordre à cet endroit-là. Oui, ça va beaucoup plus loin. Et donc, on rajoute encore une couche. Vous voyez, Duduline, qui était mon point de départ, elle va faire des rencontres avec des partenaires. Et ça peut être toujours la même chose. Et c'est sûrement des partenaires qu'elle a déjà rencontrés dans d'autres vies. Peut-être elle était homme, peut-être elle était femme. Mais il y a un cycle, et ces cycles d'incarnation nous permettent de nous nettoyer. Et ça donne quelque chose d'assez fabuleux, parce que c'est notre conscience qui va cheminer. Bon, le risque, c'est que, au lieu de s'alléger, on s'en prend une couche. Bon. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, entendez que nous ne sommes pas des générations spontanées. Avant nous, il y avait nos parents, nos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, et que nous portons du matériel génétique qui a une mémoire. Mais on porte aussi des virus, des bactéries, qui viennent en grande partie de notre mère, qui ont des mémoires. Nous pensons être une génération spontanée. Que nenni ! Il y a des éléments transgénérationnels qui sont véhiculés par les virus. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grande poussée de syphilis, mais il y a des traces dans notre organisme. Les gens qui ont des dents cannelées, par exemple, les petits-enfants qui ont des dents cannelées, c'est fort probablement des traces de syphilis chez les aïeux. Mais c'est important à l'intérieur de nous et ça a un impact direct. Je ne veux peut-être pas ouvrir trop de portes. Là où on en est, donc j'ai parlé de cet aspect transgénérationnel, je parle aussi de cet aspect karmique, hein, ce faisant. Avant de parler de comment nous pouvons transformer cela, est-ce qu'il y a une question à ce propos ou est-ce que je peux continuer directement? Je continue. Comment est-ce qu'on fait pour dénouer tout cet aspect? Si vous avez remarqué, tout à l'heure, j'ai parlé de notre conscience, c'est 5%. Si vous comptez rapidement, il reste 95% de notre conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 95%? Bon, on peut avoir des hypothèses qui vont de toute façon ne pas tenir dans les 5%. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des hypothèses. Mais vous avez l'intuition qui est une voie extraordinaire. L'intuition, ça nous permet de savoir quelque chose instantanément. On est quelques-uns à avoir pratiqué il y a maintenant quelques années. Quelqu'un arrivait et on fermait les yeux pour mieux voir et on lui racontait sa vie. Ce sont des éléments simples qui appartiennent à notre intuition. Où notre intuition est plutôt le moyen de traverser les différentes couches de la conscience. Et c'est assez fun de dénouer les informations qui viennent de vie antérieure. Mais là, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt du champ vibratoire. Donc là, j'ai parlé d'une situation, de comment des éléments se figent dans notre conscience. Et la grande ligne, c'est, est-ce qu'on pourrait remettre de la vie là-dedans, dans ce qui s'est arrêté? Là, quand même, c'est fun de s'interroger là-dessus. Alors, il y a longtemps, nous percevions cela de façon intuitive. Et là, je vais plutôt vous parler d'une machine qui permet d'aller au-delà encore dans d'autres dimensions pour percevoir ce qui, au-dedans de nous, est en attente. Vous voyez, on pourrait dire que les maladies que nous portons physiquement, il y a des virus, il y a des bactéries, et on est malade. Cool. Bon, pour certains, ça suffit comme explication, ça marche. On peut imaginer qu'il y a toute cette dynamique de champ de conscience. Et donc, dans les champs de conscience, on peut diagnostiquer des pathologies qui ne sont pas encore diagnosticables dans le corps physique, mais on peut les diagnostiquer 6 mois à l'avance dans les champs vibratoires, dans les champs de conscience. Donc, ce que nous avons fait il y a quelques années, c'est on ferme les yeux pour mieux voir. Je vous assure, ça marche. Et on disait un certain nombre de choses à la personne qui venait nous consulter, justement parce qu'on est trois à avoir fait ça pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, j'utilise une machine. Ah! Ça permet d'aller dans d'autres dimensions encore. Et cette machine permet de... C'est une machine quantique, bien évidemment, qui permet de percevoir les champs d'information et de stimuler pour remettre de l'ordre. Parce que, voyez, quand l'arrière-arrière-arrière-grand-mère a été violée, on n'a pas conscience de cela. Mais dans notre champ de conscience, certains membres de la lignée vont le porter pour le guérir. Et donc vont se remettre en situation d'être violés. On sait statistiquement qu'une femme qui a été violée à 70% va se remettre en position d'être violée à nouveau. Mais bien évidemment, puisque c'est une empreinte transgénérationnelle. Pardon ? Malgré elle, oui, pardon, malgré elle. Oui, elle ne va pas chercher consciemment. Et il y a comme ça un certain nombre d'éléments de notre vie où nous prenons des choix inconscients sans nous rendre compte. Le choix du partenaire, par exemple. Un choix de partenaire violent, on arrive à le quitter, on en trouve un autre, c'est pire. Donc vous voyez, c'est le côté répétitif qui imprime dans les champs de conscience, dans les champs informationnels, il y a quelque chose à lever, à nettoyer. On peut dire que c'est karmique, mais entendons-nous, le karma n'est pas un fardeau à porter quoi qu'il arrive. Le fardeau, c'est une somme d'expériences à transformer. Parce que il se peut que dans d'autres vies, ma conscience, mon âme, ait créé des perturbations. Et donc, je viens dans cette vie pour remettre de l'ordre, pour vibrer à l'unisson avec l'univers, avec l'amour, ça, vous mettez les mots que vous voulez. Et moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire avec la machine que j'utilise, c'est de regarder en partant du champ vibratoire de la personne. Avant, c'est ce que nous faisions, mais par nos capacités intuitives. Et bon, mon expérience de vie fait qu'à un moment donné, j'ai moins la capacité. Et l'univers m'a proposé une machine pour faire à l'identique et plus encore. C'est fun. Donc, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau du corps physique, et puis comme information. Et puis, on va descendre au niveau des bactéries, au niveau des virus, au niveau des métaux lourds, il m'en manque un, les champignons. Tout ça, c'est un champ informationnel qui vibre d'une certaine façon et qui va résonner avec le corps émotionnel, avec le corps mental et avec l'âme. C'est fun, hein, d'avoir des informations sur les différents niveaux. Et c'est vraiment assez extraordinaire parce que on peut commencer d'une façon, oh, il y a quelques informations, et des fois on continue et hop, on obtient un tableau qui est assez net. Et toutefois, ça bloque, il faut trouver la bonne porte. Bon, pour aller dans ce regard-là, il faut accepter que nous sommes des êtres multidimensionnels. Ce n'est pas juste moi. Moi, c'est 5%. Qu'est-ce qui fait que je développe telle pathologie ou telle autre pathologie? Il y a des gens qui ne développent pas de pathologie. Les anciens, une génération avant moi, monsieur n'était jamais malade. Il avait une maladie, il mourait. Après l'âge de la retraite, assez souvent, 6 mois après ton retraite. Parce que la valeur à ce moment-là, c'était la valeur travail. Si vous avez remarqué, une évolution de la société, on est moins dans la valeur travail. Donc tous ces champs informationnels, peut-être avant de voir s'il y a des questions, ce que je voudrais dire, c'est on imagine volontiers notre corps avec des champs informationnels qui vibre. Je vous encourage vivement à avoir une perception des champs informationnels qui vont baisser en fréquence, jusqu'à avoir une fréquence palpable. Notre corps, dans cette vision-là, n'est que la concrétisation, que la conséquence de champs informationnels que nous pouvons décrypter. Et donc, la machine que j'utilise, c'est une machine qui permet de décrypter les différents champs de conscience pour amener ensuite une stimulation dans ces champs de conscience dans la perspective de l'alignement, on pourrait dire de la guérison. Et il y a des éléments que nous pouvons comprendre et d'autres non. Et c'est ça qui est fun, vous voyez. Et comme ça, c'est un nettoyage au fur et à mesure de ce qui s'est passé chez l'arrière-arrière-arrière-grand-mère qui a été violée, on n'en a pas conscience. Mais on a des attitudes répétitives, des addictions par exemple, qui sont en lien avec quelque chose qui s'est passé, avec une personne en particulier, mais alors, soyons clairs, l'essentiel de notre vie est de la répétition. La répétition de génération en génération, mais de la répétition dans notre vie, où on reproduit la même chose dans une finalité où nous cherchons la guérison. Mais des fois où la plupart du temps, on ne s'y prend pas de la bonne façon, et donc on reproduit la même chose. Statistiquement, une femme qui a été violée une fois a une forte probabilité d'être violée à nouveau. Elle va se mettre dans des conditions de façon inconsciente pour être violée à nouveau. Elle ne le fait pas exprès. C'est une tentative désespérée de reproduire les mêmes choses pour avoir une nouvelle conclusion. Ça s'apparente à la folie. Hein. Si je fais la même chose, j'obtiendrai le même résultat. Mais si je fais la même chose en obtenant, en désirant un résultat différent, ça ne le fait pas. Donc, entendez cet appel qui nous vient du plus loin. Si vous tendez l'oreille, vous l'entendez. Au fond, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et je vais développer cet aspect-là, puis après, je laisserai s'il y a des questions. Notre corps est la conséquence de notre psyché. Et notre psyché, on peut dire notre âme, vit d'expérience en expérience pour s'affiner. Allez, soyons fous. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs champs de conscience, je vais faire simple. Le champ de conscience de la Terre, c'est nous permettre de dépasser la dualité. Et ça tombe bien, la Terre est en train de changer de champ de conscience. Peut-être vous savez que nous étions dans l'ère du poisson pour arriver dans l'ère du Verseau. Si vous regardez le poisson, le symbole du poisson, c'est un poisson dans ce sens, un autre poisson dans le sens inverse, et entre un lien. Si vous mettez une force qui va dans ce sens, une autre force dans ce sens-ci, et un lien, ça tourne en rond. Bien. L'air du Verseau, c'est pas pareil. Donc là, on change d'air. Et donc changer d'air, ça veut dire que le champ de conscience de l'humanité est en train de se transformer. Si vous avez remarqué, les valeurs de la société sont en train de changer. Si on regarde juste dans l'ère du poisson, donc c'est un air binaire, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, je ne sais plus à combien on en est avec les hommes, les femmes, les binaires, les non-binaires, les... j'ai perdu le... bien. Oui, on change de conscience. Notre champ de conscience évolue. Et dans ce sens-là, ça a du sens de s'incarner en ce moment dans cette pleine transformation du champ de conscience de la Terre. Et à chaque fois qu'il y a une transformation, il y a des zones de résistance et il y a des zones d'évolution. Ah ! Et en tant qu'âme, nous avons décidé de nous incarner dans ce temps d'évolution. Entendons-nous bien, le temps d'évolution d'une ère à une autre, ça ne se mesure pas en une vie, ça va se mesurer en centaines d'années. Parce que pour que les brins d'ADN évoluent en même temps que la qualité vibratoire de la Terre évolue, Ça va demander. Mais regardez, vous voyez, aujourd'hui, les âmes qui se sont incarnées depuis 2000 ont une autre représentation du monde. Et ça, c'est fun. Donc, ce dont je vous parle, c'est dans cette évolution énergétique, dans cette évolution de conscience, nous avons avec nous tout un background de vie antérieure que nous manifestons dans cette vie, sans en avoir conscience, hein. Et donc, l'idée dans ce que je voulais développer pour aujourd'hui, c'est de vous montrer tout l'aspect transgénérationnel qui est en lien avec l'aspect karmique. Dans une autre vie, mon âme habitait un autre corps et j'ai vécu telle chose. Et je viens dans cette vie-là précise pour remettre de l'ordre. J'ai donc choisi tel ou tel parent avec telle ou telle histoire familiale et je rencontre tel ou tel partenaire de vie dans cette vie-là pour guérir cet aspect. C'est fun, hein? Mais ça, la partie de nous qui comprend, donc le mental, 5%, oui, c'est joli, toutes ces histoires-là. Mais vous voyez, si on regarde d'un point de vue psy, qui est ma base, j'ai bossé une trentaine d'années, un peu plus, en tant que psy, c'est nous tentons désespérément, en refaisant toujours les mêmes choses, de guérir ce qui est bloqué dans nos champs vibratoires. Parce que la psychothérapie, thérapie, c'est le soin. Psycho, c'est la psyché, donc profondément. Et la psyché, c'est l'âme. Donc la psychothérapie, c'est le soin de l'âme. Du moins, c'est comme ça que je le conçois. Et donc, moi, ce qui me passionne avec cette machine dont je vous parle, qui s'appelle le Time Weaver Pro Med, c'est un appareil qui a été conçu par un Allemand, un homme qui appartient en partie à ce monde, qui est musicien concertiste, qui est mathématicien, qui. La liste est assez longue. Et donc, qui a mis en place un appareil qui permet. De faire ce que nous faisions il y a quelques années, que ce soit Gilles ou Isabelle, on s'assoit face à un inconnu et on lui raconte sa vie. Là, la machine le fait, ce qui est un peu plus reposant d'ailleurs, mais ça permet de faire dans toutes les dimensions de l'être. Et vous savez, il y a des éléments, ça se répète dans notre vie. Ça se répète et ça se répète encore. C'est une tentative désespérée de guérir à un endroit. Et donc avec cette machine, ça permet, comme un oignon, d'enlever une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, pour permettre au chemin de notre âme de s'alléger. Parce qu'il y a des éléments qu'on traîne qui sont d'autres vies, qu'on appelle les vies antérieures. On les amène là pour nous guérir, nous transformer en tant qu'âme. Et c'est assez fun de s'alléger et d'entrer dans ce qui est l'essentiel de notre vie. Alors je dirais avec mes mots à moi, nous sommes des êtres de lumière incarnés. Le plus célèbre, c'est Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, donc Jésus, c'est le corps, donc vous pouvez mettre votre prénom à la place de Jésus. C'est le chemin qui nous amène dans cette ère du Verseau, dans le champ de conscience de la Terre est en train de changer. Donc, mettez votre prénom à la place de Jésus et ça fait Jésus-Christ. Donc, vous avez Jésus qui est le corps, Christ qui est la conscience et Jésus-Christ qui est notre chemin. J'insiste, mettez votre prénom à la place de Jésus-Christ. Donc, on est bien d'accord, il y a Jésus qui est l'incarnation, il y a Christ qui est la conscience, et il y a Jésus-Christ. Là, vous comprenez mieux le sens de la croix. Jésus-Christ, ça c'est l'axe vertical. Et Jésus-Christ, c'est l'être réalisé. Donc notre chemin dans cette ère du Verseau, vous prenez votre prénom, vous mettez Christ, c'est votre chemin. c'est notre chemin à chacun de nous dans ce temps d'incarnation particulier. C'est fun, hein? Mais ça remue à l'intérieur de nous. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des idées de plus en plus folles. Je vais rester sombre là-dessus. Mais c'est un appel à la conscience. Et ce n'est pas pour rien quand ces forces, vous voyez, obscures et lumineuses s'affrontent. Nous sommes vraiment dans un passage de conscience et ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Mais de toute façon, la lumière est la lumière. Ça peut être fun comme première conclusion. Bon, ça. Avez-vous des questions? Et si oui, merci d'attendre qu'Isabelle vous amène le micro.
Tout à l'heure, vous disiez qu'on peut guérir des lignées si les personnes étaient prêtes, non? C'est pas ça?
Je réponds. Il y a une question plus précise encore?
Non, ça peut pas être plus précis que ça. Désolée.
Je vais broder avec. Ça? Pardon. Merci. Oui, c'est guérir les lignées. Je suis persuadé qu'en tant qu'enfant, notre première mission dans notre choix d'incarnation, c'est de soigner pour nos parents, pour les inviter à guérir. Alors, ça mène à un niveau psychologique où on va prendre leur pathologie, ce qui n'est pas du tout efficace, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est important de rendre la pathologie à l'autre plutôt que de la prendre, mais d'aider l'autre à en guérir. Et ça, il y a des pratiques énergétiques qui aident à soigner la lignée. C'est un peu de cela dont il est question. C'est comment est-ce que nous allons pouvoir aider à soigner la lignée, c'est nos ascendants, mais aussi nos descendants. Et bien sûr, tous les collatéraux. Tous les collatéraux qui en ont besoin. Chacun de nous, chaque âme, prend une partie du karma de la famille, mais pas tout le karma. On prend la partie du karma, c'est-à-dire de la mémoire des dommages qui ont été créés pour remettre de l'ordre. On prend le karma de la famille en fonction de notre karma d'âme. Ça donne quelque chose d'assez lumineux. Est-ce que ça commence à répondre un peu à votre question ? Moi, je le tiens.
Comment guérir soi et donc aussi guérir les autres si les autres ne sont pas prêts? Est-ce que ça marche comme ça en bilatéral? Je ne sais pas.
Ça marche, la réponse est simple. La réponse est simple dans la mesure où vous pouvez vous guérir. Ça, c'est ma conviction personnelle. On peut guérir dans cette vie, on peut guérir d'un point de vue psychique. Et des fois, ça amène une guérison physique. On peut ne pas guérir physiquement, mais être guéri psychiquement. L'avantage, c'est que la vie prochaine, on repart avec moins de choses à apprendre. Quand vous faites ce qui est nécessaire pour vous guérir psychiquement, ça va résonner sur toute la lignée. Et si vous voyez mon geste, c'est les ascendants, les descendants et tous les collatéraux. Et c'est une invitation pour l'âme de nos aïeux à guérir également. C'est une invitation. Chacun de nous prend ou ne prend pas. Qu'il soit encore sur Terre ou non, ça importe peu, puisqu'il y a une résonance dans tout l'univers. Au-delà de ce que nous pouvons comprendre de l'univers avec notre mental à 5%. Mais vous, quand vous guérissez d'un aspect transgénérationnel ou d'un aspect karmique, ce qui va être un peu la même chose à un endroit, c'est aussi une libération pour vos collatéraux et vos descendants.
Tu perçois une résistance dans le fait que si tu bouges, je ne bouge pas autour de toi. Dans l'approche quantique, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas un niveau psychologique. La machine qu'utilise Gérard va permettre que, malgré eux, en dépit d'eux, ou indépendamment de notre volonté d'agir sur la généalogie, ça se fait quand même. Et ça, c'est de la grande différence entre un travail thérapeutique, psychologique, et un travail quantique.
Ça donne la réponse ?
Je voulais dire, en fait, c'est de l'information qui passe entre les diverses lignées, enfin, dans la lignée et les divers étages. Tout n'est qu'information qui circule. Donc, en fait, c'est ça.
Tout à fait.
On a travaillé ensemble. Enfin, c'est de l'information. Donc, cette information, elle va résonner chez vos collatéraux, dans votre descendance aussi. Et bien, est-ce qu'ils apprennent ou est-ce qu'ils n'apprennent pas ? Est-ce qu'on peut se poser la question ? Finalement.
C'est leur choix.
C'est leur choix.
Mais oui. Nous, en tout cas, nous avons pris notre place en libérant ce que nous pouvions libérer.
Le fait qu'il n'y ait plus de prise en charge, mais que ce soit la machine que l'on confie, entre guillemets, responsable de ça, libère pleinement au niveau psychologique. C'est toute l'intelligence de cette méthode qui est vraiment à un niveau. Moi, je suis arrivé depuis des années maintenant, et à chaque fois, on touche un aspect transgénérationnel, c'est rare qu'on ne le touche pas, mais c'est quand la machine dit, enfin, qu'on remonte à la généalogie et que ça touche la grand-mère, l'arrière-tante, etc., ça vient un moment opportun où c'est juste et ça se dégage. Je n'ai pas besoin de connaître le contenu psychologique de ce qui s'est passé, ça se dégage pour eux. Et ça se dégage pour eux parce que moi, je suis l'intercesseur qui demande à me dégager moi de mon histoire. Et ça dégage tout le monde, enfin, progressivement, quand c'est le moment pour chacun. C'est là où c'est magique et c'est là où la psychologie n'a pas de prise. Et je trouve ça magnifique dans le prolongement de ce travail, c'est justement que cette machine permet ça. Et ça, c'est génial.
Moi, j'aime bien. Il n'y a pas que moi qui donne des explications, alors, je trouve ça super cool.
Donc, ça a l'air magique. Et magique. Donc, en fait, on guérit de quelque chose qu'on ne connaît pas. Peut-être, c'est ce que vous disiez, ou en partie, mais comment on peut se sentir une fois qu'on est allégé de ça ? Est-ce que ce n'est pas déstabilisant ?
Ah, la guérison est toujours déstabilisante. Je donne un exemple visuel. Il y a des personnes qui viennent me consulter, on va dire qu'ils sont dans un équilibre comme ça et qui ont mal. Donc je vais les inviter à revenir dans cet équilibre-là. Mais quand on est penché de cette façon-là et qu'on revient ici, c'est un déséquilibre. Donc, il y a une partie de déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. Chacun de nous cherche l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre. Et quand on est comme ça, vous y voyez des personnes qui marchent complètement prisées d'eux, elles sont inconsciemment dans une recherche d'équilibre et on voit que c'est décentré. L'aspect qui est abordé, c'est l'aspect de la conscience. Et nous sommes des êtres de conscience, nous sommes des êtres incarnés. Et la grande difficulté sur Terre, c'est que nous sommes dans l'illusion que c'est notre corps ou que c'est notre conscient qui est nous. Alors qu'on peut regarder d'une autre façon, dans le chemin de l'âme, nous habitons, donc on va dire le chemin de l'âme, nous habitons un corps qui a un corps intermédiaire, un corps physique qui a un corps intermédiaire, qui est le corps mental. Dans ce corps mental, il y a l'aspect de la pensée, l'aspect émotionnel. Mais c'est aussi le lieu des mémoires. Et avec la machine, plus qu'avec les mots, on peut dissoudre des aspects dont nous n'avons pas nécessairement conscience dans notre conscient. On a juste conscience qu'on bute toujours sur le même endroit, mais on ne sait pas lequel. Au niveau de la psychologie générale, on va amener plutôt la personne à comprendre, mais on bute parce que des fois, on ne peut pas comprendre. L'intérêt d'autres approches que je pratiquais, c'est plutôt d'aller dans un autre champ de conscience, là où il y a les réponses, quand même plus intéressant. Mais ça, c'est une approche de la psychothérapie. La psychothérapie est plutôt intégrative. Et avec la machine, ça permet de stimuler des zones de votre champ de conscience sans que vous en ayez conscience nécessairement. Et il y a des gens qui se réveillent en disant « j'ai fait un rêve et puis je me sens mieux ». Et on ne va pas chercher à comprendre ce qui s'est passé, mais c'est juste remettre de l'ordre parce que c'est le champ de conscience qui est stimulé pour être harmonisé. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas la machine qui va vous forcer à vous mettre droite. C'est une stimulation pour nettoyer les champs de conscience. Les champs de conscience, c'est-à-dire ce qui va être transgénérationnel et de ce qui va être karmique. Nous sommes à la croisée des chemins. Et nous portons des problèmes, et plus on y réfléchit, plus on tourne en rond dans les problèmes. Alors que l'idée, c'est de pouvoir dissoudre dans différentes zones. Des fois, c'est magique, c'est en une séance. Et quand c'est, ça nous relie à une dimension plus large avec nos ancêtres, avec d'autres vies, ça demande plus de temps. Et puis, il y a aussi une réalité, c'est que quand je fais avec des enfants, il y a moins de répétitions au fil du temps qu'avec une personne qui a 60 ans ou plus. Mais on ne s'y trompe pas, c'est quand même le chemin d'âme. Ça va demander du temps, mais c'est stimuler le champ vibratoire. Donc ça va au-delà de ce que notre conscient, 5%, peut comprendre. Et ça fait plus de 25 ans que je raconte qu'on peut guérir sans comprendre pourquoi. L'essentiel, c'est de guérir. Mais notre mental, lui, veut comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que les thérapies sont longues. C'est qu'on passe beaucoup de temps à comprendre. Et je vais vous dire, au fil de l'expérience, j'ai trouvé qu'on peut fabriquer du sens. Du pourquoi je vais mal. Mais ça ne guérit pas. Mais on a fabriqué du sens. Je sais pourquoi je vais mal et je continue d'aller mal. Donc ça, j'ai trouvé ça, ça ne me convenait pas vraiment en tant qu'accompagnant. Et mon idée de l'accompagnement, c'est stimuler la personne vis-à-vis d'un résultat. Pas que la personne comprenne. Narcissiquement, c'est plaisant de comprendre pourquoi je vais mal et aller mieux. Oui, c'est prendre une autre voie pour stimuler, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Vraiment. C'est terrible hein, pour le mental. Moi, je veux tout comprendre. Oui, bon, quand on veut tout comprendre, on fabrique du sens. Du n'importe quoi. Mais, je sais pourquoi je vais mal et je continue d'aller mal. C'est une histoire, ça. C'est deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Alors, tu vas comment? Et là, non. Et je me souviens, quand tu étais à l'armée, tu avais des problèmes d'énurésie. Oh, ben, c'est toujours pareil. Je fais une version courte. Et, mais moi, je vais voir un psy. Il habite pas loin d'ici, tu peux aller le voir. Si, bon. Et puis, la vie passe et il se revoit quelques mois après. Et ton histoire, ça va comment? Il dit, c'est super. Je continue de faire pipi au lit, mais je sais pourquoi. Vous voyez? Donc le pourquoi, ça fait quelques dizaines d'années, pour moi c'est un peu surfait. Et ce qui m'intéresse, c'est que la personne que j'accompagne aille mieux avec, en acceptant la frustration de ne pas savoir pourquoi, mais d'en profiter pleinement. Parce qu'il y a des éléments qui sont à dénouer. Moi, j'utilise différentes approches. Bon, maintenant, je m'intéresse quasi essentiellement avec la machine, mais moi, j'adorais l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire, mine de rien, faire des suggestions hypnotiques que la personne ne peut pas comprendre, mais ça développe. Or, notre mental veut contrôler et utilise la maladie pour nous contrôler, nous en tant qu'être. Et ce qui est fun, c'est aller mieux, c'est une étape, mais c'est de guérir de certaines zones, même si on ne sait pas pourquoi. Hein. Somme toute, c'est plutôt sympathique de se sentir allégé des comportements qui étaient répétitifs et d'un coup de plus en avoir besoin. Ça va ? Ça donne une image claire ? Bon, d'autres questions ? Je tiens.
Quand une lignée s'arrête, cela signifie-t-il qu'elle est guérie ? Je prends mon exemple. Nous ne sommes plus que, enfin, il reste plus que maman et une fratrie de trois. Aucun d'entre nous n'a souhaité avoir d'enfants. C'est parfaitement assumé. Et donc, voilà. Et il n'y a plus de collatéraux, il n'y a plus rien.
On peut imaginer deux niveaux de réponse. Ça s'arrête, c'est-à-dire que le chemin d'âme, bon, avec cette voie-là, ça s'arrête, point. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une guérison ? On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Donc je vais dire oui et non. Peut-être, dans ce sens-là. Mais d'un point de vue psychologique, ce dont je me suis rendu compte il y a déjà pas mal d'années, c'est des enfants qui ont eu des traumatismes quand ils étaient enfants. Et en général, les traumatismes remontent sur plusieurs générations de traumatismes. Le meilleur moyen de protéger ces enfants pour qu'eux-mêmes n'aient pas de traumatisme, le meilleur moyen de protéger les enfants, c'est de ne pas en avoir. Donc c'est un autre niveau de réponse. Et après, c'est un chemin très personnel. Mais entendons-nous bien, il y a tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie. Il y a une grande partie de répétition dont on n'a pas conscience. Mais il y a les chocs dans notre vie qui nous permettent de transformer nos croyances inconscientes. Les chocs, c'est le décès d'un quelqu'un, de quelqu'un, mais c'est aussi un mariage, une rencontre amoureuse. C'est... Et il semble bien que, juste avant la mort, vous savez, l'image d'Épinal, c'est de « on revisite notre vie ». Certes, mais c'est aussi un moyen de guérir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs approches de notre vivant pour guérir différents aspects, pour mourir en paix. Je trouve qu'une mort intéressante, c'est de s'endormir paisiblement dans son lit. Vous voyez ? Eh bien, il y a des gens qui font ça. Et c'est tranquille, ils s'éteignent. Et ils ont donné des signes avant-coureurs, parce que s'il y a l'autre dans le lit, c'est pas marrant. Quand l'autre se réveille, hey, tu te réveilles, c'est fini. Mais il y a des signes avant-coureurs de dire au revoir. Ou quand on s'éteint, on s'éteint. C'est joli, hein, ce mot. On s'éteint. Ça veut bien dire que nous sommes des êtres de lumière. Et en tant qu'être de lumière, s'éteindre, ça veut dire, bah, je laisse ce véhicule, je laisse ce manteau, il m'a servi pour une vie. Et oui, l'endroit de nous qui a peur de la mort, c'est le corps mental. Le corps physique, c'est la physique. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc notre corps ne va pas disparaître, il va être recyclé. Les atomes de carbone, ils vont continuer leur vie sur Terre. Ça, c'est simple. Ça demande d'y réfléchir, mais c'est simple. Notre âme, dans le plan de conscience où nous sommes, notre âme est immortelle. Cool. Elle vivra dans un autre corps, d'une autre façon, ou sur un autre plan de conscience. Ouais, ça, je n'ouvre pas les vies parallèles, une autre fois si ça vous intéresse. Mais, je le disais tout à l'heure, on a différents corps, et le corps intermédiaire, c'est le corps mental. C'est le corps qui prend une forme. Et la forme, elle, va disparaître. Donc le corps mental est le corps qui a peur, qui connaît la peur, qui vibre sur la peur. La peur engendre la maladie. Parce que nous allons disparaître en tant que forme. Ça disparaît. Notre âme, c'est... Allez, soyons fous, disons une boule de lumière. C'est sobre de notre champ de compréhension. Notre corps, c'est des molécules, des hydrates de carbone. Ça va être recyclé par la Terre. Mais le mental, celui qui nous fait croire « je suis », ça, ça va disparaître. Et c'est là où il y a la pétoche. Oui, ça fait peur tant que cette partie de nous qui est au service de notre âme, cette partie de nous a tendance à se prendre pour le big boss. Et je ne peux pas résister à dire que c'est comme les hommes politiques. Les hommes politiques sont à notre service. Ah. Oui, nous les élisons et ils doivent nous... Bien, j'insiste pas, hein. Ils ont oublié ça. Et le mental, c'est exactement pareil. Le mental est au service de notre âme. Le mental, c'est super génial. Le mental, c'est ce qui nous permet d'arriver à l'heure. Le mental, c'est ce qui nous permet de comprendre, d'avoir un certain nombre d'activités structurées. Donc, nous avons besoin de notre mental. Le bug, c'est quand le mental se prend pour le big boss. Et la façon dont le mental s'y prend pour nous faire croire qu'il est le big boss, c'est la peur. Le doute, ce sont les deux armes du mental. Rien que sur le mental, on pourrait tenir une heure, je vous assure. Donc, ce qui est intéressant, c'est un chemin spirituel pour vivre dans un corps en tant qu'âme et le mental à notre service. Sentez votre soupir, l'énergie qui vibre à ce moment-là. C'est une perspective différente. Et donc, oui, d'accord, le mental a peur de mourir. Mais la mort, c'est qu'un passage. Mais si on regarde bien, la vie sur Terre, c'est qu'un passage. On emprunte à la Terre quelques hydrates de carbone, quelques molécules comme ça. On fabrique un corps. Dans la mythologie, c'est les dieux ont fabriqué un corps avec de la terre. Ils l'ont animé par le souffle de la vie. Cool. Et puis, quand on n'a plus besoin du corps, on le rend. Mais le mental, lui, dit non. Moi, j'existe que sur cette terre, dans ce moment précis. Après, je suis dissous. Ça coince aux entournures. Ouais. On peut avoir des idées, mais ça reste que des idées. Notre mental, il va dire, ce sont des hypothèses. Très bien.
Et à partir de là, tu comprendrais que la machine est un interstice spirituel vers une voie qui est... Justement, la machine, elle permet un passage vers le spirituel. On ne contrôle pas, c'est un tiers. Ce n'est pas le thérapeute supposé tout savoir comment ce qu'on fait avec Gérard l'intuition. On disait à l'autre des vérités qu'il était capable d'entendre, il ne pouvait rien faire. Là, on est à un niveau où la machine est un tiers qui va être un lien entre le thérapeute qui guide et nous, l'intérêt de Gérard d'être thérapeute de formation depuis tant d'années, parce qu'il a l'habilité de conduire la personne, de l'amener gentiment dans ses résistances, de l'apprivoiser. Et ça, quelqu'un qui n'aurait pas ce background-là, pas beaucoup moins l'intérieur. Voilà, c'est ça. C'est ce que la machine permet, c'est vraiment d'être cette interface. Et c'est pas évident de s'en remettre à une machine, parce que c'est le mental. Hein. Mais si vous imaginez que cette machine, elle est un intercesseur entre votre psychologie, votre ego et votre devenir spirituel, c'est génial. Si vous ouvrez cette parenthèse-là, le travail Gérard est sublime. C'est vraiment ça. C'est une invitation.
Merci.
Qui permet que la machine...
La souffrance, c'est... Je réponds sur la souffrance. C'est comme le doute, c'est une arme du mental. Pour nous faire croire que c'est ailleurs que ça se passe. Je pense qu'en se mettant dans une lumière vraiment intense, la douleur devient acceptable. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, hein, quand même. Parce que le mental a une emprise forte. Et plus on lui donne cette emprise, plus il y a la souffrance. Mais ce qui est important, c'est de considérer que la souffrance, c'est un moyen pour nous faire quitter la confiance. Parce que quand on souffre, on veut que ça s'arrête et on ne pense plus qu'à ça. Si on prend une petite souffrance, pas si petite que ça, mais mal aux dents. Plus on pense qu'on a mal aux dents, plus la douleur prend la place. Et quand on est dans cette souffrance plutôt psychologique, un mal-être, quelque chose qui n'a pas de sens, savoir qu'en France, on est les premiers consommateurs de psychotropes. Premier consommateur de psychotropes, si on donne une idée, vous voyez les États-Unis, vous voyez la Russie, leur consommation à l'une plus l'autre, on fait mieux encore en France. Donc on n'a pas cette culture de se sublimer. Or, c'est un des traits de notre psyché, c'est de sublimer la douleur. Ça ne veut pas dire la nier. La sublimer, c'est en faire une dynamique spirituelle avec. Tout ça, c'est des mots jolis. C'est quand on est face à la douleur ou quand on a une expérience où c'est pas sûr qu'on continue de vivre. Soit on se rigidifie, on se fige dans la peur, soit on traverse au mieux et le reste de la vie est plus simple. Parce que ce qui fait peur au mental, c'est la mort. La mort en termes de dissolution, d'inexistence du mental. Donc le mental, pour cacher, il dit non, c'est la souffrance. Hein, le côté un peu... Mais la mort sur terre, ce n'est ni la mort du corps, ni la mort de l'âme. C'est la mort du mental. Donc le mental, il fabrique tout un tas de croyances. Et une des croyances modernes, c'est le transgénique. C'est-à-dire, on va bricoler le corps pour qu'il dure plus longtemps. Et le top du top, les recherches actuelles, c'est comment passer la conscience dans un robot réputé immortel. Point de suspension, oui, vas-y, vas-y.
J'ai vu un film hier qui s'appelle, je crois, Le Congrès de Altman. Et c'est moitié film, moitié numérique, je ne sais plus comment on dit. Et donc, c'est l'histoire d'une actrice qui se fait scanner, on reproduit son image et la suite du monde, tout le monde est dans un monde d'images où il n'y a plus d'ego, où tout le monde s'aime. Et voilà, et on doit faire le choix entre attendre de mourir ou être dans ce monde. Et j'ai vu ça hier. Donc, je vous recommande le film. Enfin, ça a été réalisé il y a 10 ans.
C'est vraiment intéressant, un monde d'images. Nous sommes déjà dans un monde d'images. L'image de soi. Et il y a plusieurs films dans cette idée où on va mettre la conscience dans un robot ou dans une dynamique virtuelle. Mm-hmm. Et tout ça, c'est... l'échappatoire, me semble-t-il. Au fond, notre corps, on ne sait pas quand il va s'arrêter de vivre. Quand on est jeune, on a la vie devant soi, le monde nous appartient. Mais il y a des gens jeunes qui meurent. Ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. Ah mince! Alors, donc on dit qu'on a peur de la vieillesse parce que après la vieillesse, c'est la mort. Mais la mort, c'est à n'importe quel moment de la vie. Moi, j'aime dire ça. La mort, c'est réservé aux vivants. Ça paraît tout bête, hein, mais c'est fun, dit comme ça, je trouve. Et donc, on ne sait pas à quel moment la grande faucheuse va dire « toc, toc, c'est le moment, tu es prêt ?» Non, c'est pas grave, c'est chaman. Et donc, c'est intéressant de régulièrement de faire le tri dans ses affaires, mais aussi dans ses amours, dans ses relations. Oui, les gens, on n'a pas vu depuis longtemps, bah, c'est bien de leur donner un petit coup de fil ou de leur écrire en disant bah, adieu. Et de clore les relations pour que, au moment du grand départ, émotionnellement, on soit libre. C'est connu ça, il y a plein de gens qui sont sur leur lit de mort, ils ne veulent pas mourir tant qu'ils n'ont pas vu l'arrière-arrière petite nièce. C'est fun. C'est l'envie de vivre pour dire quelque chose. Et donc, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est intéressant de dire le plus vite possible ce que j'ai à dire à chaque personne. Comme ça, le jour où je m'en irai, le plus loin possible. Voilà, c'est être en paix. Ça marche ?
Oui, j'ai encore une question, je peux ?
Oui, non. Sur le fil.
J'aimais bien le fait que, enfin, des schémas, ça aide. Donc, il y a 5% de la conscience dont on a conscience, j'ai compris.
Ouais. Enfin,
les 95%, ils sont occupés à vivre ailleurs dans des vies parallèles ou ça n'a rien à voir ?
Ah, ça, c'est vraiment une question que j'adore. On parle de la vie actuelle et on arrive assez facilement à parler des vies antérieures. Les vies antérieures, c'est ce que notre âme a vécu dans une autre vie. Bon, les bouddhistes abordent ça, donc c'est entendable. Mais alors, on peut aussi parler de vie future. Parce que le temps tel que nous le définissons, n'existe que sur Terre, pour notre mental. Notre mental a une vision linéaire du temps. Alors que le temps, c'est un point, c'est pas une ligne. Et donc, notre âme a fait quoi ? Imaginons un instant qu'il y ait des vies parallèles. Il y a longtemps, j'avais vu un film comme ça, et j'ai trouvé l'idée super intéressante. L'idée de ce film, c'était une prise de pouvoir de ce corps-là qui allait sur d'autres mondes pour tuer les autres manifestations corporelles de cette âme pour que l'âme puisse récupérer tous les morceaux qui étaient dans les différents niveaux de... C'était rigolo hein, comme idée. Moi, ça m'a marqué en disant, mais oui, somme toute. Hormis cette lutte de pouvoir entre les différentes parties de soi, ce qu'on manifeste dans notre vie, on ne s'y trompe pas. Un exemple simple, c'est quelqu'un qui veut faire un régime. Il y a une partie de la personne qui veut faire le régime, et l'autre, ouais, mais c'est le gâteau que je préfère. Là, on a bien deux parties, et donc si on regarde, mais ça, c'est plus une approche psychologique, on peut avoir différentes parties qui ne veulent pas toutes la même chose. Alors, ce concept... d'âme, les 95%, au fond, ça pourrait être quoi ? Et on peut tout à fait imaginer qu'il y a une part de notre âme ou de notre conscience qui vit dans un autre monde, sous une autre forme, peut-être dans une forme gazeuse. Enfin, là, c'est total open, on peut dire ce que l'on veut. On peut se poser la question, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des jours où, en tout cas, moi, il y a des jours que je suis en forme, puis il y a des jours que je suis moins en forme. Bon, quand je suis moins en forme, qu'est-ce que j'ai fait la nuit ? Où est-ce que ma psyché a traîné ? Où est-ce que j'ai perdu mon énergie ? Mais peut-être que dans une autre incarnation de mon âme, j'ai fait quelque chose et mon âme a drainé l'énergie de ce corps-ci. On n'en sait rien. On est dans ce qu'on appelle la science-fiction. C'est fun. Mais de garder ça ouvert, ça nous évite de nous prendre la tête en disant « je suis ». Voyez ? Et donc, ce qui se passe dans notre psyché, notre mental crée des choses, soit complètement étriquées, mais les 5%, c'est des statistiques par rapport à un des travaux de Mehrabian, je crois, sur comment, quand on exprime ce qu'on veut exprimer, il y a 5% qui sont avec les mots, il y a un peu plus de pourcentage avec le regard, avec le mouvement des mains, avec le corps, l'intonation, mais ça marche aussi, je trouve, dans ce que nous comprenons de la vie, c'est pas vraiment grand-chose. Mais le mental s'enorgueillit de cela. Et pour faire le lien avec la machine, quand je l'utilise, ce que je trouve vraiment très, très doux, c'est quel est le désir de la personne et quel est son besoin. Le désir, c'est son mental. Et donc, il faut en prendre soin. Mais ensuite, de parler de ce dont la personne a véritablement besoin, qu'est-ce qui impacte son âme ? voyez, donc la question, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que dans notre champ de conscience, on est un peu étriqué, et après, bah, c'est tout l'objet des films de science-fiction qui sont vraiment intéressants. Et c'est des approches philosophiques qui vont être différentes, philosophiques comme spirituelles. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'était le discours des Rose-Croix quand j'étais adolescent. C'est l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et j'aime bien cette métaphore. Voyez votre foie, enfin, imaginez votre foie. Il y a des cellules. Et les cellules sont composées de noyaux nucléaires. Une cellule, c'est un noyau nucléaire, tout en bas, avec des électrons qui tournent. J'ai fait un microscope, très petit microscope, très petit. C'est un soleil, et il y a des planètes qui tournent. Un noyau nucléaire avec des électrons. C'est un soleil, et il y a des planètes qui tournent. Imaginons juste un instant que sur cet électron, il y a un habitant. Autour du Soleil, il y a bien la planète Terre et il y a des habitants. Vous voyez, de l'infini, enfin, de notre conscience, on est dans l'infiniment petit. Mais si on regarde notre planète, elle tourne autour d'un Soleil qui lui-même est dans la Voie lactée, qui la Voie lactée est même dans un système plus grand. Donc vous avez un habitant sur ce qu'on appellerait nous un électron, qui est dans un ensemble qui s'appelle cellule, qui est dans un ensemble qu'on va appeler foie, qui est dans un ensemble qu'on va appeler corps. Et pour cet habitant de ce que nous, on va appeler électron, on est qui? On est déifié à ce moment-là. Vous voyez? Alors c'est fun, parce que si on regarde, oh, on est sur une planète qui n'est qu'un électron qui tourne autour du Soleil, qui est dans la Voie lactée, et cette Voie lactée, c'est un élément d'un grand tout. Ah! Alors, dans ma vision à moi, il y a une vibration unique. C'est comme ça que je comprends. Il y a une vibration unique qui tient tout en cohérence. Et cette vibration, dans ma conscience sur Terre, je l'appelle amour. Je l'appelle vie. D'autres vont l'appeler Dieu. Ça me va. Et c'est ce qui maintient tout en cohérence. Regardez les planètes, elles sont éloignées les unes des autres. Comment elles font pour tenir? Pourquoi elles ne tombent pas? Ah! Et ben c'est pareil pour nos cellules. Elles sont avec des noyaux nucléaires. Et on dit que entre le noyau nucléaire et les électrons qui tournent, il n'y a rien, il y a du vide. Bon, alors ce n'est pas du vide, sinon... Je crois bien me souvenir que notre corps, c'est 0,5% de masse. Le reste... C'est de l'énergie. Ah, l'énergie, on pourrait dire conscience? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais c'est fun de regarder l'infiniment petit, l'infiniment grand. Il y a plein de ressemblances. Donc ce que je suis en train de vivre ici, peut-être je le vis dans une autre dimension. Le champ de conscience est bien plus grand. Et donc, dans ce, quand on est parti des 5%, les 5%, c'est ce que je comprends, c'est inhérent à la matière que j'utilise, que j'emprunte à la Terre, mais le reste de ma conscience, il y a des choses extraordinaires. Je crois que c'est les Indiens Hopi. Ils disaient, c'est important de vivre et de se fatiguer dans la journée pour bien rêver. Parce que les rêves, c'est l'essentiel de notre vie. Vous voyez? C'est fun. C'est un autre regard. Et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Sinon, j'ai raison, t'as tort. C'est, ah oui, à ceci, ah oui, à cela. Peut-être une dernière question avant de finir.
Pour revenir au sujet du tabou de la mort, parce que quand on aborde ce problème de mourir, ça crée un malaise partout. Or, on est dans une société consumériste qui a organisé la fin de vie, qui a déchargé les familles, et finalement, en déchargeant les familles, eh bien, il y a un passage qui ne se fait plus pour les familles, parce qu'auparavant, on laissait le corps du défunt dans la famille. Et je l'ai vu il n'y a pas bien longtemps, parce que après, j'étais en Belgique, dans une maison de de repos. Et l'autre jour, j'ai vu ça, je suis allée plusieurs fois. En fait, la famille a souhaité que le corps reste dans la chambre. Et comme c'était pas loin de la chambre où j'allais, en fait, j'ai vu toute la famille venir, les bébés, tout le monde venir. Ah ben, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui si, ah ben, mon père, mon conjoint part, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes prêt à le garder auprès de vous et puis de faire venir les amis, vous laisser réconforter, veiller la personne? Vous voyez, je rentre du Maroc, là, hier soir, et je suis allée faire une course dans la Médina, parce que j'ai une copine qui voulait une gandoura, tout ça, et je me trouve dans un magasin. Vous savez, le rite funéraire est très réduit, en fait. Eux, chez les musulmans, on confronte l'âme à la peur. Donc, tout de suite, le défunt est tout de suite enterré. C'est leur rite, c'est leur rituel. Voilà. Et alors, en allant dans cette médina, dans ce magasin, je vois qu'en fait, il y a une, vous savez, enfin, sur un crochet, quoi, des sachets, et c'est marqué linceul, parce que chez les musulmans, on enveloppe et on les met directement dans la terre. Et quand les personnes sortent bien souvent de l'hôpital, etc., ils sont transportés, enveloppés dans leur linceul, sur un simple, comment on dit là ?
Un brancard.
Un simple brancard, entouré de dizaines de personnes qui sont certainement des inconnus ou des gens, mais les gens participent à l'accompagnement de la personne qui vient de mourir. Et ça, ça a du sens pour nous. Ça, on ne s'en rend plus compte, mais ça a du sens sur la fin de vie, sur l'accompagnement de l'âme aussi, pour chacun sa façon de voir les choses, mais bon, je pense globalement encore. Et donc, ça a du sens, mais on a confié ça à des sociétés et qui sont beaucoup d'argent.
Oui. Alors, sur la mort, on pourrait aussi parler un certain temps. Là, je vais faire court et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais cette mort qui fait peur, en même temps, c'est une dynamique qui rassure. On l'a chosifié, c'est en sens où ça fait peur. Mais dans notre vie, nous n'avons que deux certitudes. Mourir et le changement. C'est les deux certitudes. Une fois qu'on est né, bien sûr. Mais ce qui va guider notre vie, les deux certitudes, c'est tout est changement et on finit par mourir. Et c'est structurant. Imaginez ne serait-ce qu'un instant qu'on vous donne un chèque en blanc, vous pouvez vivre, allez, disons 500 ans. Imaginez. Là, il vous reste encore jusqu'à 500 ans. La vie n'est pas du tout pareille. C'est structurant de savoir que nous allons mourir. Donc, il y a un début et une fin. Et c'est comme ça que nous nous structurons sur Terre. Dans d'autres champs de conscience, on se structure autrement. Mais nous sommes dans un monde binaire, il y a un début et une fin. On est en train de quitter l'ère du poisson qui est le monde binaire pour entrer dans l'ère du Verseau, donc c'est un peu différent. Mais oui, la mort c'est quelque chose qui est devenu inquiétant alors que c'est naturel. J'insiste, il n'y a que les vivants qui meurent. Et donc il y a quelque chose de joyeux. Mais pas pour le mental, c'est là où je reboucle, pas pour le mental, parce que le mental, lui, va perdre sa conscience. Bon, nous allons nous en tenir là. On pourrait développer encore, il y a d'autres points magnifiques.
Je peux juste vous apporter un témoignage. Il y a 6-7 ans, j'ai été contactée par une femme politique assez connue qui s'appelle Sandrine Rousseau et qui avait fait l'objet d'une agression sexuelle par un politique, donc il y a eu un procès, etc. Et elle a créé une structure, une association qui s'appelle En Parler. Donc elle m'avait contactée pour l'aider à structurer cette association. Et en fait, elle s'étonnait parce que toutes les personnes qui venaient dans ces permanences, qu'elle accompagnait parfois même jusqu'au procès, jusqu'à les amener dans un commissariat simplement, ces femmes se faisaient violer pour la 5e, 6e, 7e, 8e fois. Et quand elles arrivaient devant un officier de police, bah évidemment là, pas crédible, vous les attirez, madame. C'était juste ça.
Oui, oui. Oui, alors, permettez-moi juste là-dessus de dire un mot. C'est, il y a une partie de nous qui cherche l'exorcisme. C'est-à-dire, une statistique qui a été montrée, c'est que 70% des femmes qui ont été violées se mettent en condition d'être violées à nouveau. La structure inconsciente, la structure interne, c'est pas possible. Je me remets dans la situation, dans l'espoir d'avoir une fin différente. Or, quand on est dans les dynamiques, je fais la même chose pour obtenir un résultat différent, c'est la base même de la folie. Oui. Une folie inconsciente. Mais donc oui, il y a une tentative comme ça, et ça amène quelque chose de pas crédible, mais c'est, je reproduis la même chose dans l'espoir irraisonné que la conclusion soit différente. Et donc là, il y a un accompagnement à faire. Bon, oui.
En fait, moi je trouve que c'est précieux, tout ce que vous venez de nous apporter. Ça donne beaucoup d'espoir, parce que finalement, on est dans un monde où on nous fait croire que de trouver des solutions, c'est un combat. Il y a quelque chose du combat comme ça en nous, de toujours vouloir tout contrôler, de toujours vouloir tout comprendre. Et finalement, ce que vous nous dites, vous, ce que vous nous apportez, c'est que y a un lâcher-prise quelque part à avoir, d'accepter de ne pas tout comprendre, et finalement d'être un peu plus léger, enfin d'être un peu plus d'avoir confiance en soi aussi, enfin et de pas forcément faire utiliser ton mental tout le temps pour tout expliquer, tout contrôler, aller au bout des choses, etc. Donc merci beaucoup.
Je rebondis. Merci. Juste, je rebondis et puis après. Alors encore une. Non, je rebondis et puis après on arrête. Notre mental, personnellement, je considère que c'est une bouteille d'un litre. D'un litre. Elle ne contient qu'un litre. Et donc notre mental veut tout comprendre. Et dans un litre, il tient qu'un litre. Comment est-ce qu'on peut faire alors? Ce que je vous suggère, c'est imaginer de prendre cette bouteille d'un litre et de le jeter à la mer. De la jeter à la mer. Au fond de l'eau, ce qui va se passer, c'est tout l'océan, toute la mer va y passer. Vous voyez? Et donc c'est important pour notre mental d'en prendre soin. Parce que notre mental sait qu'il va disparaître à un moment ou à un autre. D'où ce contrôle. Et c'est important de se mettre dans un champ de conscience différent. Et c'est ce que j'adore avec ma machine, c'est de libérer ces différents champs de conscience, ces différents niveaux de conscience, de telle sorte que le mental puisse être apaisé. Et il me semble bien que l'essentiel de notre vie, c'est d'apaiser notre mental. Il sait qu'il va le disparaître et d'en prendre soin, donc de se positionner en tant que conscience, en tant qu'âme, c'est bien plus facile à dire qu'à vivre, mais nous avons des expériences de vie qui sont des fois très difficiles. C'est aussi pour nous positionner en tant qu'âme sur terre, pour être dans ce que les chrétiens appellent la paix du Christ, c'est-à-dire la manifestation de notre corps de gloire. Et dans la manifestation du corps de gloire, c'est la représentation de la lumière autour de nous, mais autour de nous, en nous, c'est d'être dans la fusion avec la lumière, sur terre, de notre vivant. Bon, ça va être une conclusion un peu... Merci. Merci à vous.
On a prévu un petit chapeau si vous avez quelque chose pour la conférence. Ce serait sympa pour vous. Et puis cet après-midi, on a un concert, mais je vous